Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Nous sommes de retour sur les ondes de CFAC 88.3 pour parler de la pièce de théâtre Les Sorcières de Salem qui prendra l'affiche au Théâtre Léonard-Saint-Laurent cette fin de semaine-ci. On parle au metteur en scène ce matin, François-Louis Lorrain, bonjour.
Oui, bonjour, bon matin.
Alors, je le disais, Les Sorcières de Salem, Arthur Miller qui a écrit cette pièce-là en 1953 pour dénoncer la chasse aux sorcières, mais ça garde quand
les
même...
Les communistes. À ce moment-là.
Les communistes, voilà, donc, qui résonnent encore aujourd'hui, j'ai envie de dire. Pourquoi avoir choisi de revisiter cette œuvre en 2025?
Je pense que dans le climat politique actuel, il y a quelque chose qui résonne beaucoup, ne serait-ce que par l'extrémisme politique, je dirais. Mm-hmm. Puis dans la pièce, il y a beaucoup comme un climat de peur, puis ça raconte beaucoup comment la peur peut être utilisée comme un outil de manipulation. Fait que, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne aujourd'hui dans le climat de peur qui règne dans le climat politique, disons. Puis il y a quelque chose aussi d'un extrémiste politique là, qui manque d'humilité puis qui refuse, disons, d'admettre ses torts ou d'avoir l'humilité de reconnaître des erreurs, là, puis que ça pousse finalement à de la violence. Hein.
Votre mise en scène est décrite comme fortement inspirée de faits historiques, mais marquée par une atmosphère de mystère et d'horreur. Comment avez-vous traduit cet aspect-là sur scène?
Ouais, c'est une bonne question. Moi, au départ, je voulais qu'on puisse sentir la peur que ressentent les personnages.
Okay.
Donc, j'ai vraiment essayé de me dire, OK, comment est-ce que je peux essayer de traduire les codes du film d'horreur sur scène? Fait que j'ai regardé des films d'horreur pour essayer de voir le timing avec l'éclairage, avec la musique, voir aussi, je veux pas trop donner de détails, mais il y a quelques évocations de créatures monstrueuses, disons. Fait que j'essayais de voir comment est-ce que sur scène on pouvait les évoquer pour sentir leur présence, pour qu'on ait aussi peur que les personnages, finalement. Fait que c'est comme du jeu de lumière, la trame sonore y est pour beaucoup aussi, puis le jeu des personnages aussi, là, qui... pour que l'horreur qu'ils vivent soit communicatrice avec le public.
Autour de la table, j'ai mes collègues qui vont avoir des petites questions aussi. Ryan, tu m'avais fait signe.
Ouais, moi je voulais réagir un peu aussi sur la petite remarque que vous avez fait précédemment. Vous avez dit que certaines personnes politiques ne voient pas les choses en face. Est-ce que, en soi, dans votre œuvre, est-ce que vous essayez aussi d'apporter cette compréhension du fait que certaines personnes, parfois, ne se rendent pas compte réellement... des actions qu'ils mettent de par leur idéologie ou même autre chose, quoi.
Ouais. C'est intéressant comme aspect, là, disons, dans la pièce, comment c'est représenté, puis je pense que ça résonne avec ce que tu mentionnes, c'est on préfère se fermer les yeux sur les erreurs qu'on pourrait avoir commises si c'est pour... si ça risque de mettre en danger l'autorité ou... dans ce cas-là, c'est une autorité qui est presque religieuse. Hein.
Donc c'est une idéologie en partie.
Ouais, c'est ça, exact. Donc... tout ce qui peut menacer, disons, la pleine autorité là, de leur pouvoir, c'est reconnu comme une menace. Puis on préfère comme y réagir en admettant aucunement ces erreurs. Il n'y a aucune place à ce qu'on puisse tolérer l'erreur qu'on puisse avoir commise.
Bien sûr. Et vis-à-vis de ça, je ferai un rebond juste sur la pièce. Vous, selon vous, comment vous pensez que vous avez pu permettre, du coup, notamment que ce soit l'équipe de comédiens ou autre, de pouvoir mieux incarner cette tension, même parfois, je dirais, sur certains plans, peut-être une paranoïa ou une incompréhension, ou d'être machiné, automatisé dans ça?
Je dirais que l'écriture, à la base, le rend déjà quand même assez bien. Là. Les personnages sont... Il y a des grands paragraphes, je pense, à un personnage en particulier qui illustre déjà très bien ça. Fait que c'était beaucoup... c'est simplement de suivre ce que l'écriture suggérait déjà là, au niveau des intentions des personnages puis du caractère des personnages. Après ça, il y a toujours un jeu entre la proposition des comédiens puis tout ça, mais je pense que assez harmonieusement, ça tendait vers cette direction-là.
Donc on s'attend à ce qu'en plus que l'ambiance, les personnages aussi nous mettent dans ce climat actuel.
Oui, absolument, ouais.
On le disait, la pièce date de 1953. Les pièces peuvent être adaptées, modernisées. Avez-vous fait un choix de mise en scène peut-être un peu plus fidèle au texte, ou vous avez vraiment voulu apporter cette touche de modernité-là?
Ben, c'est une bonne question. T'sais, disons, je donne un exemple au niveau des costumes. Là, c'est sûr que je voulais évoquer le... Il y a quelque chose du passé, mais je voulais pas que ça résonne tout ça. On est au 15e siècle, là, mettons. Là, mm-hmm. Pour moi, ces textes-là, ça, si ça nous parle encore de l'histoire, c'est qu'il y a comme une touche d'universalité. Là, fait que c'est comme simplement de pas appuyer trop sur l'époque pour que ça permette de résonner, puis laisser les thèmes revenir, résonner aujourd'hui simplement. Là. Fait que je dirais que au niveau de la mise en scène, c'est simplement comme une évocation.
OK. Et puis, je lisais également qu'il y avait un épilogue inédit à la pièce,
oui,
écrit par,
ouais,
Catherine Dumont-Lévesque. En quoi consiste cet ajout-là, peut-être, à la pièce?
Oui, ben ça, c'est une bonne question. C'est qu'au départ, quand on a fait le choix de la pièce, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain piège, au sens que pour moi, on peut pas raconter une histoire de chasse aux sorcières aujourd'hui sans, à tout le moins, aborder un point de vue féministe.
Okay.
Mais c'est pas du tout là où l'écriture originale va. Là, c'est pas du tout ce que voulait raconter Arthur Miller en 1953. Donc, pour moi, il y avait quelque chose à prendre soin à ce niveau-là dans la mise en scène. Puis, lorsque la pièce avait été montée à Denis Pelletier, ils ont fait une adaptation, mais le personnage principal, ça reste que c'est un homme, c'est lui qui est présenté comme un martyr à la fin de la pièce. Fait que pour moi, c'est important de terminer la pièce sur une note différente. Puis l'idée est venue de donner une voix de plus au personnage d'Abigail, qui est très important dans la pièce, mais qui a pas, tu sais, plus de place que ça en termes de ce qu'on entend d'elle, de ce qu'elle peut porter comme questionnement. Donc l'idée était venue justement là, de faire appel à quelqu'un pour écrire un épilogue inédit pour terminer sur sa parole à elle.
Ah,
qui aborde, okay, pour moi des éléments qui sont importants. Là, entre autres, on avait lu le même essai, là, Catherine et moi, qui faisait des liens entre la chasse aux sorcières du 15e puis du 16e siècle, puis les fondements du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec le début de la propriété privée en Angleterre à cette époque-là, qui marginalisait au final les femmes qui étaient célibataires. Fait que c'était elle finalement qui se retrouvait à être accusée de sorcellerie. En tout cas, il y a comme quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, puis que je trouve qui résonne encore aujourd'hui.
Si je me trompe pas, c'est la 18e production du théâtre de l'Insomnie. Si je me trompe pas, tu es peut-être un petit peu extérieur de la troupe
ouais,
troupe en tant que telle. C'est eux qui t'ont approché, c'est toi qui t'es manifesté. Ou est-ce que tu les connaissais déjà?
Oui, je les connaissais déjà. J'étais un fan. J'avais vu deux de leurs productions récemment. Fait que j'étais très touché qu'ils viennent me chercher. Là. Dans le fond, ils ont travaillé avec Emmanuel Laroche les 10 dernières années. Puis cette année, elle n'est pas revenue.
Okay.
Puis c'est Richard Lacroix qui est le directeur artistique de la troupe. Puis on avait travaillé ensemble à quelques occasions parce que je faisais la mise en scène des ateliers théâtre du Double Signe. Donc c'était lui des fois qui s'occupait de la régie ou qui m'aidait au niveau de la conception d'éclairage. Donc c'est lui qui a fait appel à moi l'été dernier. J'étais très heureux.
Donc, ça sera à partir de ce vendredi 14,
exact,
15, 16, première semaine, 20, 21, 22 mars pour la deuxième. Comment se porte la troupe à deux jours de la première?
Ça va bien. On a eu comme un trois jours d'enchaînement, là, samedi, dimanche et lundi, qui ont été prometteurs. Là.
Okay.
C'est le moment où on sent que la vie commence à venir sur scène. Tu sais, les personnages sont plus libres. Il y a plus de moments vivants qui se passent, même hors les répliques. Fait qu'en tout cas, c'est toujours le fun à voir. Aujourd'hui, on fait les intensités d'éclairage. C'est comme notre dernière couche de magie sur la mise en scène. Donc, on est tous très excités. On a hâte de présenter ça au public.
Ah, ça va être mieux que Salem Lose de Stephen King. Là, on a l'ambition.
Ouais.
Donc, ça sera présenté du côté du théâtre Léonard-Saint-Laurent au séminaire de Sherbrooke, ici.
Ouais. Si je peux le mentionner aussi,
oui,
les billets sont en spécial pour les étudiants. C'est 15 $ au lieu de 30 à la porte, donc c'est vraiment avantageux pour les étudiants.
Let's go. Super, donc ce sera bien sûr à surveiller. Merde pour le spectacle. On parlait avec François-Louis Lorrain.
Merde, pas bonne chance.
Non, c'est une expression, ça porte malheur sinon de dire bonne chance.
Oui, c'est ça, ça vient du théâtre français. Savez-vous d'où ça vient cette expression-là d'ailleurs?
Non, je serais pas de dire.
C'était à l'époque de Louis XIV. En fait, quand il y avait merde devant le théâtre, c'était vraiment parce qu'il y avait beaucoup de public, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux qui passaient devant le théâtre.
Bah merde alors. Ouais.
Donc c'était un signe de réussite si c'était dans ce que
c'est comme le trône.
Ouais, on peut dire ça. C'était l'idée. François-Louis Lorrain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Ça fait plaisir, merci pour l'invitation.
Bah bon courage et merde.
on fait une courte pause musicale ici sur les ondes de CFAQ.